sinceramente.
Et votre radio, on vous donne directement notre numéro 07 80 80 64 64. C'est le numéro Voltage. Écrivez-nous, laissez-nous un vocal et partagez-nous toutes vos envies en direct. Voltage. Dance Music. 07 80 80 64 64. Et Voltage reste encore une fois votre radio. Dance Music.
Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Voltage, on vous fait découvrir le meilleur de nos interviews.
L'invité du 10-15.
Eh ben c'est parti, on est vendredi, on est le 5 mai, et comme chaque vendredi, c'est l'invité du 10-15. Salut Zaki.
Salut.
Zaki que vous connaissez peut-être sur TikTok sous le nom de Votre Honneur Zaki. Alors t'as 133 000 abonnés quand même. Un peu suivi le gars.
Tout petit peu.
En fait, tu débusques les arnaqueurs, les vendeurs de formations en carton, les bons plans en carton. Comment devenir incarottable?
C'est ça exactement.
On va parler avec toi, Zaki, ne plus jamais se faire arnaquer sur les réseaux sociaux avec les faux influenceurs qui te vendent des formations de merde, tout simplement. Les faux SMS, les faux mails qu'on reçoit, les faux sites internet. Je peux te dire que Maud est bien concernée par le sujet.
Tout à fait.
Puisque tu as reçu quoi? C'était quoi un truc avec
moi,
la poste?
C'est tout le temps la poste. En fait, je reçois beaucoup de colis et j'ai souvent des mails de la poste. Votre colis vous attend et je sais jamais si c'est vrai ou pas.
Ok. Alors il y a des petites techniques pour savoir tout ça.
J'ai hâte parce que franchement, quasiment tous les jours, mais vraiment tous les jours, je pense que je reçois des faux SMS de votre vignette critère pour circuler dans Paris vous attend, des trucs comme ça.
T'as pas de voiture, donc à la limite...
Si, j'ai une voiture.
Ah bon?
Juste à les garer dans les Yvelines. Merci beaucoup d'être là avec nous, Zaki. On va parler tout ça avec toi et puis juste avant, on écoute Trinique sur Voltage.
L'invité du 10-15.
Vendredi avec Voltage, vendredi après-midi, l'invité du 10-15, c'est Zaki du compte Insta, du compte TikTok, Votre Honneur Zaki. Alors pour expliquer un peu ce que tu fais, t'as ta petite perruque de juge, ton petit marteau et tu juges tous les faux influenceurs, les faux vendeurs de formation, comment ne jamais se faire carotter. Comment t'en es venu à faire ça?
C'est ça, alors je flanque des roustes, c'est l'expression que j'aime bien utiliser. Alors moi, initialement, j'ai fait une école d'ingénieur informatique.
Ok.
Et ensuite, je me suis orienté dans la finance. C'est quand même deux secteurs truffés d'escrocs. Et alors l'idée que j'avais eue au départ, c'est de créer un compte sur les réseaux sociaux pour apprendre aux gens un peu mon métier, un peu la finance, des concepts un peu compliqués et d'essayer de les démystifier. Sauf qu'en arrivant sur les réseaux sociaux, je suis tombé sur des vidéos de multiples charlatans, escrocs et compagnie qui racontent absolument n'importe quoi.
Les gars qui sont genre à Dubaï qui te disent si tu veux devenir millionnaire.
Avec la grosse voiture à côté. Et toi aussi tu veux la voiture et la belle villa derrière.
Et qui agitent des graphiques de trading qui ne comprennent même pas.
Mais oui, tu sais, des faux contrats de propriété. Voilà, ceci est mon appartement qui vaut.
Ceci est ma Maserati.
Ouais, donc du coup en fait tu t'es juste jamais fait arnaquer, c'est vraiment...
Non, jamais, c'est ça. Et je me suis dit là, faut vraiment que je fasse un truc, c'est pas possible. Et là j'ai eu l'idée de la perruque et du marteau de juge. Et ça a bien pris, c'était surtout pour créer un personnage en fait. Et maintenant, beaucoup de gens m'identifient dans des vidéos. Juge Zaki, est-ce que tu peux convoquer ce mec là à la barre? Parce que là c'est pas possible. Donc le personnage a bien pris.
Ouais, ben, c'est très très drôle. Parce qu'en fait à chaque fois tu mets le début des vidéos de ces mecs qui font des fausses vidéos de tu veux devenir millionnaire machin. Et après t'expliques pourquoi c'est une arnaque, comment ils te carottent, etc. Comment ne pas se faire arnaquer.
Mais il y a vraiment des gens qui se font avoir par ce genre de vidéo.
Il y a beaucoup de gens qui se font avoir, je reçois beaucoup de messages. Alors de plus en plus de gens qui me disent oh merci pour ta vidéo sur un tel. J'étais à deux doigts d'acheter sa formation. Au final j'ai trouvé du contenu équivalent gratuitement sur YouTube. Merci beaucoup. Ou alors il y a des gens qui me disent ouais salut Zaki, je me suis fait arnaquer 1500 euros. C'est trop tard, hein, désolé pour toi, mais tu le sauras pour la prochaine fois.
Parce que quand tu te fais arnaquer par des fausses formations comme ça en ligne, c'est quasiment impossible de revoir son argent.
C'est compliqué, c'est très très compliqué.
Mais parce qu'il va où cet argent en fait? C'est quoi
Ah, dans la poche des 10 escrocs.
Parce qu'il va falloir qu'on explique aussi tout à l'heure comment ça marche. J'ai vu sur tes vidéos comment ça marchait en fait l'affiliation. Oui. Les faux vendeurs de formation qui sont à Dubaï, machin et tout, qui te vendent des trucs comme quoi tu peux avoir leur vie de rêve. Il y a vraiment une mécanique bien huilée derrière de on te loue l'appartement pour faire croire qu'il
est
millionnaire.
C'est ça, tout à fait. Alors déjà, il faut savoir que sur Internet, il y a absolument personne qui désire vous rendre riche.
Comme ça, on part c'est de la base, en fait.
Voilà, c'est la base de tout. Donc à partir de là, forcément, faut se méfier un peu de ce que les gens nous racontent. Et oui, donc les faux traders d'Internet, comme je le disais tout à l'heure, qui agitent des graphiques de trading, ils ont tous les mêmes punchlines dans leurs vidéos. Pendant que tu travailles, l'argent travaille pour moi.
Ah oui.
Je fais partie des 1%. Tu es l'esclave d'un patron. Et je suis multimillionnaire à Dubaï. Machin. C'est toujours les mêmes.
C'est vrai que c'est tentant quand t'entends ce genre de phrases. T'as envie d'avoir la même vie. Tu vois qu'ils sont dans des belles voitures.
Voilà. C'est ça. Surtout qu'ils agitent des Rolex, des liasses de billets, ouais, des Ferrari et compagnie. En fait, ces gens-là ne possèdent rien du tout. Et ils sont affiliés à des brokers. Donc des brokers, c'est des courtiers. Hein. Les gens, c'est des plateformes en ligne qui mettent en relation des acheteurs et des vendeurs pour acheter des actions, des actifs financiers. Ouais. Donc ces mecs-là sur les réseaux sociaux travaillent pour ces plateformes. Ils sont payés dès qu'ils ramènent un pigeon sur la plateforme.
Okay.
Et ils peuvent toucher jusqu'à 600-700 dollars en fonction du montant que le pigeon va déposer chez le broker.
Okay. En fait, c'est un métier escroc.
Ouais, ils prennent une commission ils prennent une commission à chaque fois qu'ils ramènent un client
c'est
sur la plateforme de trading qui est nulle.
Tout à fait.
Okay.
Et derrière, eux, ils en ont absolument rien à fiche que tu gagnes ou que tu perdes ton argent.
Voilà.
Et selon l'autorité des marchés financiers, c'est 90% des investisseurs qui perdent leur argent. Et les 10% qui gagnent sur un an avec un investissement de 1500 euros, c'est peut-être 200 euros. Donc est loin de la Ferrari, de la Rolex et compagnie, tu vois.
Tu vas voir la Maserati, quoi.
Ouais, c'est voilà. Ça, exactement.
Mais parmi tous ces gars, il y en a vraiment genre au moins quelques-uns qui te vendent des vraies formations pour devenir riche ou c'est très très rare.
Alors encore une fois, il y a absolument personne qui veut vous rendre riche sur Internet. Tous les vendeurs de formations, la seule chose qui les intéresse, c'est de gagner de l'argent.
Okay.
Alors, ça veut pas dire que c'est tous des escrocs et qu'ils sont tous malveillants, puisque comme dans toute relation commerciale, il a forcément un intérêt à vendre un bon produit pour fidéliser, etc. Donc il y a quand même des formations qui peuvent être intéressantes, mais selon moi, acheter une formation, en plus qui sont souvent à des prix exorbitants, ça devrait être le dernier recours. Quand t'as passé plusieurs semaines, plusieurs mois à faire des recherches sur Internet, à trouver du contenu gratuitement pour te former sur le trading, sur l'immobilier, si vraiment en dernier recours il te manque quelques informations, là tu peux t'intéresser à une éventuelle formation. En fait.
Mais est-ce que en réalité on peut vraiment se former tout seul au trading avec ce qu'il y a en ligne?
C'est
ça me paraît tellement
compliqué.
Obscur.
Bah ouais. C'est très compliqué. En fait, le trading c'est un vrai métier, c'est très compliqué. Et tous ces charlatans veulent nous faire croire que c'est super facile, il suffit de faire du copy trading, etc. Et puis au final après. Marc Blatta par exemple, alors, je sais pas s'ils sont passés ils ont interviewé à la télé des gens qui ont fait confiance à Marc Blatta, qui disent voilà, j'ai perdu toutes mes économies, je pensais vraiment que le trading j'allais pouvoir faire de ça depuis chez moi, depuis mon canapé, etc. Mais non, le trading c'est très compliqué, c'est un vrai métier.
Bah, que ça soit de toute façon les fausses formations, les faux mails, les faux SMS, machin, on est tous concernés par ces soucis. Dites-le nous d'ailleurs par message hein, sur le WhatsApp de l'émission ou sur le compte Insta de Voltage 07 80 80 64 64. On va essayer de voir avec vous aussi vos vrais problèmes. Si vous avez, je sais pas si vous avez un doute sur un site internet, sur un faux mail que vous avez reçu, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur le compte Insta de Voltage par message. On revient dans un instant, Zaki, juste avant c'est parti, on écoute Feder. Merci à vous d'avoir choisi Voltage, vous êtes sur la SL et unique radio parisienne, c'est le week-end qui démarre ce soir. Avec nous. C'est que staring up at the
ceiling. L'invité du 10-15.
Ouais, aujourd'hui c'est Zaki du compte TikTok, votre honneur Zaki, on va foutre des roustes aux faux vendeurs de formation, les mecs qui essaient de vous arnaquer. Déjà, c'est quoi les bases? Comment on fait pour ne pas se faire arnaquer par exemple par SMS, par mail, les faux sites internet?
Alors, une chose à surtout pas faire quand on reçoit un SMS ou un mail qu'on n'attendait pas forcément, c'est de cliquer sur le lien. Jamais, il ne faut jamais cliquer sur les liens qu'on reçoit. Ensuite,
même si c'est un mail de ta banque et tout, on clique
non,
pas.
Non, on clique pas sur le lien, surtout pas. C'est vraiment le premier truc.
Qu'est-ce qu'on
pas
fait
faire.
En premier alors?
Alors, si c'est un mail, on regarde l'adresse mail qui nous a envoyé le message.
Ok.
Voilà, en faisant très attention. Par exemple, si c'est un mail de Chronopost, vous avez un doute parce que vous attendez un colis, vous regardez l'adresse mail. Et si l'adresse mail vous paraît crédible, @chronopost.fr, alors c'est peut-être pas une arnaque, mais on clique toujours pas sur le lien. Et la chose qu'il faut faire, c'est d'aller sur le site où vous avez commandé votre colis. Et souvent, là-dessus, on a un lien pour suivre le colis. Et là, vous êtes sûr que le lien est safe et vous aurez les informations sur votre colis.
Alors attends, je vais juste donner un exemple très précis. Là, j'ai un mail de soi-disant FedEx. Je n'ai absolument rien commandé, d'accord?
Ça marche.
Je vais sur l'adresse mail qui m'a envoyé ce truc.
Oui.
Donc en fait déjà t'as le nom de FedEx, donc tu dis c'est bon, c'est le nom, je sais pas, de l'adresse mail, c'est bizarre parce qu'il y a le nom de l'adresse mail, puis ensuite quand tu cliques dessus t'as la vraie adresse mail.
Voilà, faut faire gaffe, faut regarder la vraie adresse mail.
Et c'est quoi la vraie adresse
mail? Bon bah là l'adresse mail qui m'a envoyé ça c'est deliveryosyjvmcc@fedexojvmcc.com. Voilà. C'est mort, c'est mort de chez mort.
Il y a trop de lettres.
Voilà, aucun doute. Alors faut quand même faire attention, puisque des fois ils arrivent à attraper des noms de domaine et ils changent juste une lettre.
Konopost.fr.
Voilà, ah, donc, faut faire
vite,
très attention.
Tu peux te faire avoir,
mais si jamais tu cliques sur le lien, il y a pas aussi un délire d'un petit cadenas dans l'adresse, dans l'URL en haut, un petit cadenas qui te permet de vérifier si c'est le vrai site.
Alors normalement oui, mais vraiment je vous recommande de ne pas cliquer sur les liens. Maintenant les hackers sont très très forts, ils peuvent récupérer vos données personnelles qui sont sur vos téléphones, sur vos ordi, etc. Donc méfiez-vous. Alors après sur le lien, on va peut-être vous demander de mettre vos codes de carte bleue et compagnie. Bon là c'est trop gros, hein, forcément. La banque ne vous demandera jamais ça en vous envoyant un SMS avec un lien.
Et même par téléphone d'ailleurs, jamais votre assurance, votre banque vous appellera en vous demandant les codes de carte bleue.
Jamais
les données, ça n'arrive pas. En vrai, ils ne t'appellent jamais pour te demander ce genre de choses. Pareil.
Exactement.
Par exemple, par téléphone, par SMS. Parfois tu reçois des mails genre impots.gouv.fr, vous devez faire votre déclaration, machin. Si c'est un 07 78 machin qui vous envoie ça, c'est mort.
C'est mort.
C'est mort.
Et on en reçoit aussi, vous avez une amende impayée qui va être majorée à 7500 balles. Alors ils jouent un peu sur la peur et tout. Non, souvent c'est gros. Méfiez-vous, cliquez pas sur les liens et payez jamais rien quand vous recevez un SMS ou un mail qui vous paraît douteux.
C'est quoi l'arnaque la plus fréquente? Est-ce que tu le sais, dans laquelle les gens tombent? C'est souvent ça là, les textos, genre vous avez une amende impayée.
C'est ça, c'est quand les gens jouent sur la peur. Voilà, vous avez un texto impayé, vous êtes dans une affaire de pédopornographie.
Non, ça marche pas.
Alors, il y a vraiment des gens qui ont vraiment peur. Alors c'est une certaine catégorie, des gens qui se disent attends, mais c'est impossible, jamais de la vie, je veux pas être associé à ça. Et rien qu'en faisant les démarches pour essayer de savoir d'où ça vient, etc., ils vont cliquer sur les liens et vont se retrouver dans des sauces pas possibles.
Et il y a un truc très malin aussi en ce moment, ils sont, c'est sur les comptes Netflix. Et très souvent, ça t'arrive que par exemple ton paiement n'a pas passé, ou alors si jamais par exemple moi dans ma famille, je sais que de temps en temps c'est moi qui paye l'abonnement pour toute la famille, après on alterne, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur, très souvent tu reçois un faux SMS de votre paiement n'est pas passé pour ce mois-ci sur Netflix, veuillez cliquer ici pour mettre vos coordonnées bancaires à jour. C'est faux.
Bien sûr. Et si t'as un doute, bah tu te connectes sur l'application Netflix.
Tu vas sur le vrai site de Netflix, voilà, tu regardes si t'as une notification, un truc comme ça.
Toujours revenir à la source, c'est la base qu'il faut retenir.
C'est la base.
Bon, et si jamais tu t'es fait carotte, tu t'es pris genre un petit virement qui était pas prévu, est-ce qu'il y a moyen de retrouver son argent?
C'est très très compliqué, hein. Ouais. Souvent les brouteurs qui font ça sont pas sur notre continent, donc souvent c'est mort.
Voilà. On les appelle les brouteurs.
Brouteurs, ouais, exactement.
Pourquoi?
Alors je sais pas d'où ça vient.
Hein, mais... Ils broutent notre argent, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Alors souvent dans des cybercafés en Afrique et compagnie.
Ah ouais.
Donc ouais, souvent c'est compliqué. Alors, on peut toujours essayer d'appeler Julien Courbet, hein, mais.
Voilà. On va voir avec toi Zaki aussi comment tous ces gars font pour avoir nos adresses mail, nos numéros de téléphone. Faut aussi qu'on parle du cas Oussama Ammar. Je crois que tu le connais pas trop, toi.
Non, moi je connais pas trop.
On va t'expliquer qui est ce gars. C'est vraiment une pépite en termes d'arnaque, je pense. Juste avant, voici Léa avec le morceau plus fort. Vous êtes sur Voltage, la seule et unique radio parisienne.
L'invité du 10-15.
Merci d'avoir choisi Voltage. Vous êtes sur la radio parisienne. C'est vendredi aujourd'hui. On a l'invité du 10-15 qui est avec nous. C'est Zaki du compte TikTok. Votre honneur, Zaki. On met des roustes.
On flanque des roustes.
En fait, on parle un peu de comment ne plus se faire arnaquer sur les réseaux sociaux par les influenceurs, par les vendeurs de formation, les faux SMS, les faux numéros de téléphone. Et on se demandait comment en fait tous ces gens qui essaient de t'arnaquer, qui t'appellent, qui t'envoient des SMS, comment en fait ils récupèrent toutes ces données, ces numéros de téléphone.
Ouais, alors c'est des fuites de bases de données. Tu vois, par exemple, toi tu rentres ton numéro de téléphone sur l'application de ton supermarché pour qu'il t'envoie un SMS quand ton drive est prêt. Et bah derrière, il n'y a rien qui te garantit que ton numéro de téléphone ne va pas fuiter. Il n'y a pas un salarié du supermarché, du service informatique qui va récupérer la base de données à des fins malveillantes, etc.
Donc en fait, genre, c'est quasiment impossible de se protéger d'une fuite de numéro de téléphone.
À moins de rentrer ton numéro de téléphone nulle part, ce qui aujourd'hui est très compliqué.
C'est impossible,
hein.
Même quand tu vas acheter un magasin, maintenant comme il n'y a plus la facture en papier, il me demande mon mail par exemple.
C'est ça, donc nos infos sont partout et on peut fuiter à tout moment.
C'est ce que j'allais dire, derrière toutes ces grosses entreprises, elles n'ont pas forcément les services informatiques qui ont des sécurités.
C'est ça, alors elles sont censées, mais des fois tu as aussi des hackers, tu parlais tout à l'heure de cyberattaque, donc il n'y a rien qui nous garantit que notre numéro va pas fuiter, donc c'est c'est très compliqué. D'où les bons gestes à avoir dont on parlait tout à l'heure.
Oui, de faire attention de l'adresse mail qu'on t'envoie.
C'est ça, de ne pas cliquer sur les liens.
Sur les liens et choses comme ça.
Mais ça se revend cher, là, toutes ces données à chaque fois ?
Alors, étant donné la facilité avec laquelle tu peux les récupérer, je ne pense pas. Tu vois ?
La facilité carrément ? Bah, tu peux très facilement hacker, genre, j'en sais rien, moi, Carrefour, Leclerc, Auchan.
En fait. Réfléchis-toi dans ta vie, tu les donnes partout.
Ah ouais,
hacker, non, c'est compliqué d'hacker une base de données d'un grand groupe. Mais pour un salarié du service informatique, c'est très simple pour lui de sortir tous les numéros de téléphone.
Ouais.
Tu vois.
Mais s'il veut se faire un peu plus d'argent, qu'il est un peu malveillant, il va les vendre à quelqu'un.
Voilà, c'est ça, exactement.
Alors, il y a une solution qui existe pour les démarchages téléphoniques. Et encore, c'est pas précis, enfin, c'est pas, c'est, ça fonctionne pas à 100%, c'est Bloctel. C'est un service du gouvernement. C'est un site internet, en fait, où tu rentres tes coordonnées, ton numéro de téléphone. Normalement, c'est censé bloquer quasiment tous les démarchages téléphoniques. Mais pas complètement.
En fait, voilà, je suis allé voir le site de Bloctel. Donc, tu rentres ton numéro sur le site de bloctel.gouv.fr. Hein, c'est que celui-là, hein, pas un autre. Le truc, c'est que Bloctel, il te bloque les appels téléphoniques, mais il ne peut pas bloquer les SMS ni les mails. Et il ne bloque pas non plus le fameux CPF et toutes les démarches pour la rénovation énergétique, puisque c'est des choses qui sont souvent gouvernementales.
Donc ça marche pas à 100%, mais c'est hyper important. Faites-le.
Ça marche déjà pour les appels.
Faites-le aussi peut-être. Moi, je sais que je l'ai fait pour mes grands-parents. C'est hyper important. Mes grands-parents, ils se font avoir hyper facilement par des mecs qui veulent, je sais pas, te changer la chaudière. L'autre jour, j'étais chez eux. Il y a un mec, un marabout, qui appelle. N'importe quoi. Tu leur dis juste, on est inscrit sur Bloctel. Mais ça panique tout de suite. Tout de suite, c'est parce que en fait ils savent que si derrière toi tu déclares qu'ils t'ont appelé, si tu déclares sur Bloctel qu'un mec t'a appelé alors qu'il a pas le droit, c'est amende, c'est tout ça compagnie pour eux.
Ah oui, c'est sérieux.
Ça prend un peu cher. On va aussi parler, tiens, du cas Oussama Amar.
Ouais.
Parce que vraiment, je crois, je prends des pincettes, hein, parce que vraiment je ne sais pas si c'est escroc ou pas escroc. D'ailleurs, c'est le grand débat sur internet. Tu vas nous donner ton avis, Zaki. Puis juste avant, il était notre invité lui aussi il y a quelques jours. Vous retrouvez tout ça sur voltage.fr et sur le compte Insta de Voltage. Voici Tom Grégory.
L'invité du 10-15.
Voilà, on rentre dans un autre game. Hein. Je sais pas comment je dois t'appeler, Zaki ou Votre Honneur.
Votre Honneur, parce que là j'ai enfilé la perruque. J'ai pris le marteau dans les mains.
C'est Zaki du compte TikTok, Votre Honneur Zaki, qui est notre invité aujourd'hui sur Voltage. On parle de comment ne pas se faire arnaquer sur les réseaux sociaux, par les influenceurs, par les faux mails et tout. Faut qu'on parle du cas Oussama Amar. Déjà, il faut que tu expliques, je pense, à Maud qui est Oussama Amar. C'est le gars qui a tout fait dans sa vie.
Ouais, ah bon, exactement. Alors Oussama Amar, en début d'année, c'était la risée sur les réseaux sociaux.
Okay.
Tout le monde l'insultait d'ordure mythomane. Et il y en a plein qui disent que c'est à cause de moi, en fait, puisqu'en fin d'année, j'ai lancé plusieurs vidéos TikTok avec le générique de Père Castor. Et j'ai dit, Père Amar, raconte-nous à Boba. Voilà, donc ça a pris beaucoup d'ampleur. Et tout le monde me dit, oui, c'est à cause de toi que tout le monde considère Oussama Amar comme une ordure.
D'accord.
Alors, Oussama Amar, c'est qui ? Moi, je l'ai découvert quand j'étais au lycée, il y a à peu près 10 ans.
Ah oui, donc c'est quelqu'un qui... D'accord.
Ah oui, quand même. Et alors, attention à ce que je vais dire, vous allez aller vomir, il y en a qui vont jeter des tomates. Selon moi, il a quand même une certaine légitimité.
Oula, ok.
Ah, attention, je m'explique. Quand j'ai découvert Oussama Amar sur YouTube, c'était des vidéos dans lesquelles il donnait des conférences. Alors je sais pas si toi Théo tu les as vues.
J'ai pas. Franchement,
ça te dit rien.
Les seuls trucs que j'ai vus d'Oussama Amar, c'est les espèces de podcasts qu'il fait où
sûr.
Il raconte qu'il a joué avec les Yakuza au poker.
Exactement. Donc à l'époque il donnait des conférences et tu voyais sur la vidéo qu'il y avait vraiment des gens qui assistaient aux conférences et tout. Et lui il est arrivé et il a complètement démystifié l'entrepreneuriat et l'univers des startups.
Okay.
Donc il arrivait en tenue décontractée avec une chaussure bleue, une chaussure rouge, et il disait, les gars, l'entrepreneuriat en France c'est de la merde, moi je reviens de la Silicon Valley donc j'ai du vécu, j'ai de l'expérience, vos CV, vos lettres de motivation c'est de la merde, on s'en fout que tu sois d'une famille pauvre, on s'en fout de ton horizon social, on s'en fout de tout ça, oublie que t'as aucune chance. Tu vois, c'est un peu ça.
Ouais.
Si t'as une idée, fonce, tu peux entreprendre.
Mais c'était vrai, il revenait vraiment de la situation.
Ah oui, bien sûr.
Là,
c'est
c'était
pour ça
jusqu'à
que
présent, c'était vrai.
Voilà, il y avait une certaine légitimité.
Ce qui n'est pas totalement con, au final. Si t'as une vraie idée, si t'as
sûr.
Été motivé, tu peux foncer et essayer d'entreprendre.
Mais
bien
après,
sûr.
Il a dévié, quoi.
Voilà, et à cette époque, tout le monde buvait ses paroles. Et donc, en parallèle, il avait The Family, qui est un incubateur et un fonds d'investissement qui cartonnait. Donc ça a ajouté de la crédibilité
oui,
à ses propos.
Donc en gros il aidait les petites startups à décoller, etc. à avoir
voilà,
des fonds.
C'est ça, tout à fait, exactement. Et il a compris à l'époque que pour gagner de l'argent sur YouTube, il fallait captiver l'attention des viewers. Donc pour ça, il fait du storytelling. Sauf que quand ton métier c'est de raconter ta vie, à un moment donné, t'as plus assez de vécu pour continuer à raconter ta vie en fait. Donc qu'est-ce que tu fais ? Bah tu commences à inventer. Voilà. Et Oussama Hamar, il a commencé à inventer des histoires de plus en plus grosses, de plus en plus rocambolesques, ça devient n'importe
mais
quoi.
Mais moi, des trucs vraiment fous. Genre, il raconte dans une vidéo qu'il est parti au Japon,
c'est ça
au Japon, et qu'il s'est retrouvé à jouer au poker avec le chef des Yakuza.
Mais pourquoi?
Je sais pas, alors, je sais même pas pourquoi
il raconte tout dans les détails et de fil en aiguille. Il te dit, voilà, je me suis retrouvé avec le chef des Yakuza. Il te raconte qu'il est allé dans un resto, que le serveur lui a mal parlé, alors il a appelé le patron et le patron l'a viré devant lui.
Non,
etc.
C'était en boîte, il essayait de rentrer avec une fille qui était très jolie, comme quoi ils se sont fait recal tous les deux, qu'il a appelé le patron. Le patron a viré le videur devant lui en mode, bah oui, si c'est Oussama Hamar qui me demande, forcément ça dégage.
Mais il y a vraiment des gens qui, maintenant, continuent à le croire ou pas?
Alors non, parce que forcément, quand c'est trop gros, tout le monde s'en rend compte, et c'est vraiment devenu un mème. Oussama Hamar, en début d'année, c'était parodie sur parodie, tout le monde le parodiait, tout le monde racontait des salades, des histoires de ouf, etc. Et il en a joué. Alors, il a fait une vidéo pour dire que... sous-entendre que lui aussi il faisait des plaisanteries, etc. Et il a dit, tous ceux qui me parodient, je vais finir par les manger, etc. Voilà, il en a joué. Maintenant, il fait des conférences avec Yomi Denzel pour essayer de nous refourguer des formations à des prix exorbitants sur l'intelligence artificielle, etc.
Ouais, j'ai vu ça passer il y a 2-3 jours.
Voilà, c'est ça, ouais. Tu vois. Alors, est-ce que il faut acheter ou non la formation? C'est pas à moi de le dire, n'achetez pas. Mais sincèrement, tout le contenu qu'il propose, encore une fois, on peut le trouver sur internet. Surtout que ces gens-là parlent d'intelligence artificielle, d'immobilier, de trading, de e-commerce.
Qui sont des vrais secteurs où il y a des écoles qui te forment.
C'est ça, exactement. Et c'est pas des sujets tabous.
Non.
Le e-commerce, ça existe depuis que internet existe. C'est des sujets qui sont très documentés sur internet et pour lesquels on peut trouver énormément de contenu gratuitement.
Donc, c'est ce que j'allais dire. Je fais pas de pub ni quoi que ce soit parce que j'ai jamais testé ces services-là. Je sais que Google fait des formations de commerce, d'intelligence artificielle. Je crois qu'il y a Amazon aussi. C'est des trucs gratuits et j'imagine que c'est un peu équivalent à tous ces trucs payants qu'on te propose.
Bien sûr, tout à fait. Alors il y a de plus en plus de formateurs en tout et n'importe quoi, on le voit sur internet. L'immobilier aussi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup marrer. Je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui dit, alors moi j'ai fait un prêt immobilier de 300 000 euros, mais vu que je suis malin, au lieu d'acheter un bien immobilier, j'ai acheté une voiture de luxe et je la loue pour les mariages tous les week-ends.
Quoi?
Alors non. Pourquoi tu mens? Parce que il est où le compromis de vente?
Oui, parce que j'allais dire, moi j'ai acheté un appartement, tu ne peux pas, voilà, en fait, c'est pas possible.
Les gens s'imaginent que la banque te remet un sac
rempli
d'argent.
Non, il faut prouver, tu achètes un bien.
Et l'argent transite par le notaire. Donc,
exactement.
Explique-nous comment t'as acheté une voiture avec un prêt immo, en fait.
En plus, ce gars n'a pas dit qu'il avait... il a pas dit aussi qu'il avait mis 0 euro d'apport?
Alors si, alors les mecs te racontent tout et n'importe quoi, ils ont 20 ans.
Ils empruntent 300 000 balles avec 0 euro d'apport.
Avec 8 ans de différé, vraiment les mecs, tu les écoutes, c'est n'importe quoi.
En fait, ils utilisent des mots qu'ils ne connaissent même pas eux-mêmes et qu'ils ne comprennent pas.
Ce que je pense, c'est que tout le monde peut devenir formateur en tout et n'importe quoi demain. Tu passes une semaine à te documenter avec ce que tu trouves gratuitement sur internet. Tu vas louer une Porsche à 200 euros la journée et tu vas faire une vidéo dedans pour dire voilà, donc moi j'en suis arrivé là, je roule en Porsche grâce au entre crochets sujet sur lequel tu veux douiller les gens. Et ensuite, tu réorganises du contenu que tu as trouvé gratuitement sur internet, souvent en anglais. Et tu mets ça dans des PDF avec un beau logo, etc. Ouais. Et tu utilises des citations de merde du style « Pendant que tu dors, l'argent travaille pour moi ». Tout ce genre de citations de merde qu'on retrouve sur tous les comptes de motivation.
Bon, pour en revenir au moins à Oussama Hamar, qu'est-ce qu'on fait? On va sur ces formations, on n'y va pas? C'est gratuit, équivalent sur internet?
Alors honnêtement... si vous voulez vous nourrir un peu de ce que raconte Oussama Hamar, regardez les vidéos d'il y a 10 ans.
Ouais.
Voilà. Là, c'était intéressant. Alors, c'est peut-être un peu dépassé par rapport à la situation économique, etc. Mais en tout cas, ce qu'il raconte maintenant, c'est beaucoup de salade.
Tu sais qu'il fait même payer des coups de téléphone. C'est combien?
300 euros les 30 minutes.
Quoi?
D'entretien avec lui, genre par Skype ou par téléphone.
C'est ça. Alors,
en fait, moi, ce qui me dépasse, c'est même pas qu'il veuille se faire de l'argent, c'est qu'il y a des gens qui achètent, quoi.
C'est surtout ça. Donc, moi, c'est ce que j'ai dit, sur les réseaux sociaux. Appelez-moi, je vous fais pour 50 euros.
Les amis... tu fais payer quand même.
Bien sûr.
Les amis, vous ne vous ferez plus jamais carotte. Suivez Zaki sur son compte TikTok. c'est votre honneur, Zaki, Z-A-K-I. On était trop contents de te recevoir, franchement, j'ai appris énormément de choses.
Pareil.
Franchement, tout ce qui est ne plus se faire carotte avec les fausses adresses mail sur...
Mais surtout l'adresse mail de bien regarder qui c'est qui te l'envoie, ça c'est très intéressant.
On va mettre tout le podcast en ligne hein, sur voltage.fr, sur l'application Voltage, on va mettre ça en ligne dans l'après-midi.
Dans l'après-midi, tout à fait.
Merci beaucoup Zaki d'avoir été l'invité de Voltage.
Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
Bon retour, il est bientôt 13h, waouh, on est très à la bourre. Les infos, ça arrive depuis juste avant, voici Will Smith.
Vous êtes au cœur de la nuit sur Voltage, avec de la musique à écouter.
Excuse-moi, je sais que d'autres avant moi ont fait le test et qu'ils n'ont pas aidé mes plans, mais je t'en prie reste. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prendre ta fesse. Assieds-toi, rien ne presse. Quand je te vois, je le déduis de ton style flash, laisse ton cœur froid. Et puis de toute façon, tu sais du cash, moi j'en ai pas.
C'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Voltage, on vous fait découvrir le meilleur de nos reportages.
Mike du compte Instagram, les secrets Disney sur TikTok. Alors, le problème, je vais te dire ce que c'est. Mm-hmm. C'est que je sais pas comment on va faire pour te libérer avant la fin de la journée.
Ah, il y a trop de choses à dire sur Disneyland Paris.
50 000 questions sur Disneyland Paris.
Tu commences à avoir l'habitude.
Je suis trop content de te recevoir. Il y a plus de 220 000 personnes qui te suivent sur TikTok pour savoir un petit peu tous les secrets du parc Disneyland Paris, les bons plans, les astuces, les nouveautés. Je sais qu'il y a notamment le parc sur la Reine des Neiges qui va pas tarder à ouvrir.
Ouais.
Il y a l'Avengers Campus qui vient d'ouvrir. Lui, les bons plans pour aller à Disney pour pas trop cher. Tiens d'ailleurs, comment ça se fait? Comment tu as eu envie de te lancer sur TikTok?
L'ancien travail que j'avais, je travaillais dans une boutique déjà, mais j'avais une option. J'étais guide dans le parc. Et on a eu le confinement, un petit moment de off, on va pas se mentir, c'était très très long. Et je me suis dit, j'ai l'habitude de me balader avec les gens dans le parc, de leur expliquer comment ça marche, les attractions, les histoires, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose qui peut partager la passion que j'ai de base. Et surtout donner un côté accessible à tout le monde. Parce qu'en fait, le souci que je trouvais des vidéos à l'époque de tout ce qui était Disney, tout ça, c'est que c'était trop complexe. Et je me suis dit, je veux toucher une majorité de personnes qui n'y vont pas forcément tous les jours et qui ne sont pas ultra fans de Disney et parler plus simplement avec les gens. Voilà.
Moi, j'y suis allé plusieurs fois à Disneyland Paris. Maud, je sais pas combien de fois tu y as été.
Oh, 3-4 fois aussi, ouais.
Je pensais connaître pas mal de choses sur le parc, hein, déjà, vraiment. J'avais pas mal de petites astuces et ça. Mais alors, sur ton compte Instagram, j'ai appris vraiment des trucs de fou, machin. les secrets qu'il y a dans la tour de la terreur, la petite fille qui peut te parler, c'est un truc de fou. Tu bosses chez Disney depuis 2015, ça va faire donc 7 ans, bientôt, au mois de mai, il me semble.
Au mois de mai, ouais.
Moi tu bosses chez Disney, j'ai envie de bosser chez Disney, comment ça se passe? Comment on se fait embaucher à Disneyland Paris?
Eh ben écoute, déjà il faut aller sur le site Disneyland Careers, en fait t'as My Disney Careers, tu vas dessus, tu peux postuler directement. Alors quelquefois ils font des sessions, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais quelquefois ils font des sessions de recrutement dans des villes bien particulières. Ils proposent par exemple une session à Paris ou à l'étranger, possiblement. Là tu fais un entretien. Alors moi à l'époque où je suis passé c'était en binôme, je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais à l'époque on passait ensemble. Et t'as une petite session, on te pose des questions un peu comme dans tous les entretiens.
Est-ce que c'est obligatoire de parler plusieurs langues?
C'est pas obligatoire, mais
vivement recommandé.
Bah, ça dépend, ouais. Ça dépend. En fait, ça dépend quel boulot tu fais. Si tu travailles, on va dire, en backstage, où tu n'as pas forcément besoin de communiquer avec un métier, où tu n'as pas besoin de parler plusieurs langues, ça peut passer. Après, c'est pas obligatoire de travailler on stage et de parler plusieurs langues, mais c'est quand même fortement recommandé, on va dire.
Et est-ce que c'est obligatoire d'aimer Mickey, du coup?
Ouais, bah, moi, c'est mon boss, je l'aime bien.
Vivement recommandé.
C'est mon
aussi.
Pote. Il est sympa.
Je voulais qu'on revienne là-dessus, tiens. Disney, c'est souvent très cher. On va pas se mentir, hein, ça coûte quand même assez cher pour prendre sa place. Encore plus quand tu veux y aller en famille.
Ouais.
C'est quoi toi tes bons plans pour payer son entrée moins cher à Disney, manger avec un petit budget là-bas sur place?
Alors en fait t'as plusieurs possibilités. Ce qui est sur le site de Disney, tu peux regarder les différents tarifs proposés, par exemple au billet un jour un parc, tu peux trouver le prix. Et t'as des codes couleurs. Le vert, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui est le moins cher. Alors évidemment quand t'arrives dans des grandes périodes comme Noël, tout ça, tu risques de pas trouver ce genre de promotion. Mais hors saison, janvier, février par exemple, tu peux trouver des tarifs très intéressants pour le parc. Tout ce qui est au niveau de la consommation, donc pour manger, tu peux, avec un budget, on va dire, entre 15 et 20 euros, trouver un fast-food qui est l'équivalent de ce que tu peux avoir partout, hein, à l'extérieur du parc. Moi, je dirais, le plus simple aussi, c'est de potentiellement anticiper d'aller manger soit plus tôt, soit plus tard, en dehors des horaires où les gens mangent, donc c'est-à-dire éviter midi, quoi, histoire qu'il n'y ait pas 300 000 personnes qui attendent pour manger un burger. Mais oui, si tu peux essayer de limiter ta consommation et ta dépense sur la journée si tu gères bien et tu anticipes ta venue. Ouais.
Alors justement, tu le disais, beaucoup de monde pour manger, beaucoup de monde dans le parc aussi.
En général, oui.
Comment on fait? C'est quel moment de l'année où on peut venir, où il n'y a pas trop de monde, on va dire?
Bah, comme je disais tout à l'heure, hors saison, je pense que janvier, février, c'est peut-être un peu plus calme. Alors, il faut prendre en compte que si tu viens avec ta famille et que tu veux voir, par exemple, tout ce qui est spectacle de Noël, tout ça, bah, évidemment, tu vas vouloir venir pendant les vacances, pendant la magie.
Pendant la foule.
Exactement. Pendant les jours fériés, pendant les week-ends. Donc, du coup, évidemment, tu auras toujours un peu plus de monde à ce moment-là, mais tu auras une offre qui sera différente que celle que tu pourras avoir en début d'année, par exemple. Par contre, je pense que le mieux, c'est, imaginons que tu es un groupe d'adolescents, tu veux venir juste faire des gros coasters, des choses comme ça, vraiment t'amuser, attraction, pas de spectacle. Dans ce cas-là, si tu as un petit budget, que tu es une bande de potes, le début de l'année, ou les périodes froides, ou les périodes où il fait pas mal de pluie, et en semaine.
Quand tu dis pas trop d'attente aux attractions, c'est combien de temps?
Bah, ça dépend ce que tu veux faire comme attraction. En fait, si tu sélectionnes, imaginons que tu veuilles faire des coasters, comme je disais tout à l'heure, bah tu peux tomber sur du 15-20 minutes. Wow.
Ça va.
Oui, non, c'est plus que raisonnable.
Franchement, c'est plus que raisonnable. Hein. J'ai attendu 100 minutes à une attraction à Disney.
Ouais, ouais, je...
ouais, ouais, c'est normal. Ouais. 100 minutes, c'est pas mal.
On dit victime de sans succès.
Et le monde de Nemo, typiquement, ça peut être combien de temps
Je sais pas. Je pense que le plus rapide que j'ai pu voir, ça doit être soit entre 20 et 30 minutes grand max.
Ah ouais, parce que d'habitude, c'est quoi? C'est du 70 minutes en journée, des trucs comme ça.
C'est un certain temps.
Le monde de Nemo, juste pour mettre...
Attends, on peut pas attendre moins de 20 minutes. Ça n'arrive jamais.
Bon, il y a certainement des moments dans l'année où oui, tu peux attendre moins de 20 minutes, mais là, je te donne à peu près une moyenne, quoi, on va dire.
D'ailleurs, l'attraction Le Monde de Nemo, qui est donc dans le parc Disneyland Studio.
Oui.
Qui est l'attraction la plus traître du monde. À savoir que tu arrives devant, tu dis ok, bon, c'est tout mignon, machin, c'est le monde de Nemo, ça va être sympa.
Ouais.
Pas du tout, vraiment pas du tout.
En fait, il y a un petit repère qui est super intéressant, c'est à l'entrée de l'attraction, si tu regardes sur la gauche, t'as une petite figurine d'une tortue qui est en train de tourner dans tous les sens. Et en fait, c'est exactement ce que tu vas faire dans l'attraction.
Oui, enfin ça, faut le savoir.
Sauf que personne
c'est,
le voit.
Faut le savoir que ça représente l'attraction, ça.
Clairement.
On voulait absolument parler avec toi, Mike, de l'ouverture du nouveau parc, la nouvelle partie du parc sur la Reine des Neiges.
Oui.
Alors ça sera, si je dis pas de bêtises, côté Disneyland Studio.
C'est ça, ouais.
Un petit peu plus loin que Disneyland Studio, c'est le prolongement du parc.
Exactement. C'est ça, c'est un prolongement du parc. Ouais.
Est-ce que ce sera le même parc? Moi, c'est ça que je voulais savoir, ou c'est un parc à part?
Non, ce sera le même parc. Ça fait partie des Walt Disney Studios.
Ah, ok.
Donc, à l'instar de ce qui a été fait pour l'Avengers Campus, finalement.
Exactement, ouais, c'est, en gros, c'est un prolongement. Il va avoir un agrandissement, ça va popper.
Alors, je sais qu'on peut pas dire trop de choses.
Je
sur
peux
ce
pas
parc,
dire trop de choses.
Mais j'imagine que ça va être immense. J'ai cru voir des articles passer sur internet comme quoi ouais. Ça va être très très grand.
Je pense que ça va être impressionnant, ouais.
Il y a un lac. Ça, on peut le dire. Il y a un château. Château de la Reine des Neiges.
On peut pas le dire.
Ah, on peut pas le dire.
Okay. Oui.
Bon, écoute, ça semble un petit peu évident quand même.
En vrai, je crois qu'on voit les travaux. Alors, peut-être que tu pourras pas me confirmer, mais de ce que j'ai compris, dans Walt Disney Studio, t'as une espèce d'attraction à côté de la tour de la terreur des parachutes.
Ouais.
Et quand t'es en haut des parachutes, tu vois les travaux qui ont commencé.
Ouais, si t'as des bons yeux, c'est pas moi qui l'ai dit.
Et je vais vous faire une petite confidence aussi. Les travaux en ce moment, ils sont fermés par des palissades en bois, c'est ça, hein?
Ouais.
Si je dis pas de bêtises. J'ai voulu voir, tu sais, par les interstices en bois, quoi ça allait ressembler. Bon, c'est vraiment au stade de travaux en ce moment, donc vraiment.
Ouais, en fait,
il y a vraiment pas grand chose.
Il y a pas d'intérêt, essayer de regarder. Le mieux, ce sera quand ce sera ouvert, ce sera super magique. Avant, il n'y a pas d'intérêt.
Et là, je suis trop pressé aussi de retourner à Disney pour aller faire le nouveau Avengers Campus qui vient d'ouvrir côté, pareil, un Disney Studio. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas? Moi, je sais pas du tout, j'y suis jamais là encore.
Ok, bah, t'as deux nouvelles attractions.
Okay.
Web, qui est une attraction. En gros, tu es dans un, pour simplifier, t'es dans une cabine qui bouge un petit peu, qui se déplace, un peu comme si t'avais fait Ratatouille déjà.
Okay,
oui.
Donc si tu es dans le noir, t'as une cabine avec des lunettes aussi qui te permettent de voir des effets de relief. Et t'as des capteurs tout autour de la machine où tu te situes qui te permettent, en faisant le signe connu de Spider-Man, là, plier ses doigts, de tirer sur des cibles, des robots,
okay.
des Spider-Bots, des petites araignées qui t'attaquent parce que selon l'histoire, en gros, elles se démultiplient à un niveau exponentiel et du coup, il faut aider Spider-Man à arrêter cette invasion.
D'accord.
Ça me fait un petit peu penser à l'attraction sur Buzz l'éclair aussi,
oui,
où tu te déplaces dans une espèce de petite navette, faut que tu tires sur des cibles.
Ouais,
et là, avec
c'est
plus
un peu
d'effets, de ce que je comprends, t'as des trucs 3D et puis tu lances comme des toiles d'araignée.
Et si je dis pas de bêtises, il y a aussi une attraction. Alors, ils ont refait Rock'n'Roller Coaster sur Iron Man, c'est ça?
Flight Force, ouais, exactement.
À savoir que Rock'n'Roller Coaster, c'était l'attraction avec le plus de sensations de toutes les attractions Disneyland Paris.
C'est toujours la même chose pour Flight Force, hein,
pas de changement
et tout. Ben, t'as des changements au niveau du thème. Par contre, alors vraiment, il faut rentrer dans le bâtiment de Friday qui est magnifique, vraiment, qui est réellement magnifique. La file d'attente, tout ça, ça a changé. L'attraction en elle-même, donc je parle du ride, le ride en lui-même n'a pas changé. Par contre, tout le thème, c'est une rethématisation globale en fait.
Il y avait un truc trop bien aussi avant dans cette attraction-là, c'est que tu avais des grosses enceintes qui mettaient du Iron Maiden, je crois, non?
Non, Aerosmith.
Aerosmith pour n'importe quoi.
Ah oui, le thème de l'attraction.
Il y a toujours de la musique à fond pendant l'attraction.
Alors t'as toujours les enceintes, par contre t'as plus la musique. T'as plus de métal ou de rock. Maintenant c'est en gros tu as l'histoire qui continue le temps de ton périple, on va dire, et qui t'explique ce qui se passe.
Mike, je pense que c'est le moment d'ouvrir la rubrique de cette émission qu'on va appeler la rubrique fourre-tout, c'est-à-dire des questions qui n'ont aucun rapport les unes entre les autres. Mike du compte Instagram Les Secrets de M, qui connaît absolument tous les secrets de Disneyland Paris. Alors on démarre avec cette question. J'ai un jour dans le parc à Disney ou Disney Studio, ou peut-être même les deux. J'ai pas allumé ton micro.
Ok, c'est mieux.
Qu'est-ce que je dois absolument faire comme attraction?
Tout dépend. Là on parle de toi.
On parle de quelqu'un qui adore faire les manèges dans tous les sens, et ceux qui sont un peu plus soft avec des enfants.
Ok, donc deux catégories. Si tu veux vraiment partir en famille et voir tout ce qui est spectacle, imaginons que tu as des enfants en bas âge et qui vont jusqu'à, on va les dire, 10 ans par exemple.
Ok.
Fantasyland, je pense que c'est le bon démarrage, même s'il va y avoir beaucoup de monde, parce qu'évidemment les familles viennent très tôt, parce que les enfants en tiennent moins dans la journée, ce qui est logique.
Rappelle-nous, Fantasyland, c'est quelle partie du parc ça?
Après le château, effectivement, c'est ça.
D'accord, là où il y a Peter Pan, Pinocchio.
Exactement.
Etc. Okay.
Ouais. Toute cette partie-là, tu peux le faire parce que globalement, les attractions sont faites pour les enfants, avec une petite exception pour Blanche-Neige et les Sept Nains.
Alors oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est marrant que t'en parles.
Ah ouais, bah, alors cette attraction-là, on l'a fait beaucoup avec nos guests, nos invités. Elle quelques parties de cette attraction peuvent potentiellement faire peur aux plus jeunes. Mm-hmm.
Alors c'est marrant parce que
je la connais pas du tout, moi, cette attraction, je vois même pas où elle est.
Je crois que t'es assez grande, t'auras pas peur.
Okay.
Je me permets de rebondir dessus parce qu'en fait j'y suis allé à Disneyland un jour quand j'étais très petit avec mes parents et j'ai un très net souvenir de cette attraction qui m'avait fait très peur. Il y a une partie en fait où tu passes dans le avec un wagon dans une espèce de forêt.
C'est ce passage là
qui fait forêt hantée. Mais qu'est-ce que j'ai eu peur quand j'étais tout petit.
Ah mais il y a des gens qui crient ou
Non, du tout. Bon, nous à notre âge, pas du tout, ça va pas du tout nous faire peur. C'est juste qu'en fait, ça peut être impressionnant pour les gamins parce que t'as vraiment des arbres hantés, machin, qui tombent, c'est un peu dans le noir, avec des gros yeux. Bah, c'est comme une forêt dans le noir la nuit, donc ça peut être un peu flippant. Mais ça reste pas mal à faire en famille. Bon,
tout dépend. En fait, je pense que tu dois prendre un peu la température, on va dire, avec les enfants. Si tu vois qu'ils sont assez ok de voir un peu d'horreur. Je mets des grosses guillemets à horreur. Mais du coup, s'ils ont pas vraiment peur, tu peux les envoyer dans Blanche-Neige des 7 ans. Mais si tu vois qu'ils sont un peu plus craintifs, évidemment, mieux vaut éviter. Moi, je pense que c'est le genre d'attraction que je conseillerais pas avant au moins 6 ans. Si tes enfants ont encore un peu d'énergie, bah, tu peux faire un tour sur les studios. Il y a quelques attractions qui sont faites pour eux aussi, qui sont intéressantes. Tu peux faire Ratatouille, par exemple, pareil, avec aussi une petite retenue si les enfants ont un peu peur du noir, tout ça, mais c'est une attraction qui passe généralement bien. Et par contre, si on prend tout à fait l'inverse, un groupe d'adolescents ou des jeunes adultes ou des adultes qui veulent vraiment faire de l'attraction pure et dure, bah du coup, parc principal, Space Mountain, alors Big Thunder Mountain, que tout le monde appelle le train de la mine.
Ouais.
Voilà.
Qui fait énormément de bruit d'ailleurs.
Qui fait pas mal de bruit, ouais. Bon, après, c'est censé être un train un peu fou de mine, hein, donc c'est un peu le but. Mais tu peux faire le train de la mine, partir sur les studios. Sur les studios, il y a des attractions comme la Tour de la Terreur qui sont incroyables, que ce soit au niveau sensation ou au niveau storytelling. L'histoire est géniale.
Ouais.
Et après, t'as RC Racer, c'est la voiture en half pipe là, qui fait des allers-retours.
Oui, voilà. Qui fait allers-retours un peu comme un bateau pirate.
Oui, plus ou moins. Ouais. C'est encore la seule attraction aujourd'hui, malgré qu'on ait fait, je sais pas, 300 millions de fois chaque attraction, qui me fait encore de l'effet, réellement.
Oh, ça, c'est fou. Et alors, parce qu'il y a quand même pas mal de temps d'attente à Disney, stratégiquement, si j'ai envie de faire le plus d'attractions possible sur une journée avec les temps d'attente qu'on connaît, il faut que je fasse quoi? Comment je fais? C'est quoi ton plan d'action?
Moi, je partirais sur le fait de, déjà, dès le matin, la majorité des gens s'imaginent que partir sur les studios et passer la moitié de la journée, c'est un bon plan parce que le parc est plus petit, parce qu'ils auront plus de temps l'après-midi, tout ça. Tout le monde pense comme ça. Donc, je dirais, commencer par le parc principal, c'est mieux que de commencer par les studios. Ensuite, tu restes, quand tu vas dans un land, tu sélectionnes où tu veux aller. Si tu veux aller faire Discovery Land et que tu as envie de faire Space Mountain, Buzz, Star Tours par exemple, et ben du coup, tu vas dans ce land et tu y restes. Même si tu as une heure d'attente sur une attraction, parce qu'en fait, je pense que les gens perdent plus de temps à partir de, comme par exemple Space Mountain, à changer de parc, aller sur Ratatouille par exemple, et revenir plus tard sur le train de la mine, tout ça. Tu perds plus de temps à te balader dans le parc que si tu restes stratégique et que tu attends un petit peu plus longtemps, quoi.
Bah, tu fais bien de le dire parce que moi c'est typiquement le genre de truc que je fais, à savoir je vais d'un bout à l'autre du parc, je perds du temps. Bah ouais, en plus de ça t'es claqué à la fin de la journée.
Oui,
donc par zone géographique, on fait tout par zone géographique,
ouais,
et on épuise le truc comme ça.
Pour moi en tout cas, l'ayant pratiqué plusieurs fois, je pense que c'est ce qui est le plus rentable dans ta journée en tout cas.
Et puis alors, la question qui est la question débat que je me pose depuis je sais pas combien d'années avec mes parents, avec mes potes. Tu vas avoir le plus de sensations dans un manège, tu te mets tout à l'avant ou tout à l'arrière?
Alors ça dépend l'attraction.
Comment ça ça dépend l'attraction?
Ça dépend ce que tu veux faire. Alors imaginons, pour moi, je dirais que la majorité du temps, si tu te mets à l'arrière des attractions rapides, des coasters, t'auras un peu plus de sensations parce qu'évidemment, comme c'est une sorte d'énergie, disons que t'as une poussée, et ben, tu prendras toujours plus de vitesse à l'arrière qu'à l'avant. Mais par exemple, dans Flight Force,
c'est lequel celui-ci?
L'attraction de campus que je disais tout à l'heure.
Le roller coaster avant.
Voilà, okay. L'ancien Aerosmith. Eh ben, je te dirais, mets-toi à l'avant, non pas pour les sensations, mais je pense que t'as plus la possibilité de voir tout ce qu'il y a autour de toi, donc tout ce qui est décor, tout ça.
Ouais.
Donc je te dirais une fois pour les sensations à l'arrière, une fois à l'avant pour le thème et la magie.
Et ceux qui ont un peu peur, c'est au milieu.
C'est vous sortez et vous allez faire It's a Small World, la maison des poupées, c'est très très bien.
D'ailleurs, voilà. La maison des poupées, ça a réouvert ou pas encore?
Pas encore. Alors j'ai pas la date de la réouverture, mais c'est pas encore.
Ok.
Bienvenue sur Voltage. Je suis votre intelligence artificielle et je vous propose d'écouter les meilleurs hits du moment. Okay. Chaque nuit, c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur Voltage, on vous fait découvrir le meilleur de nos chroniques.
La crise sanitaire a impacté beaucoup d'aspects de notre vie, et notamment notre vie amoureuse. En Chine, les divorces ont explosé au sortir du confinement. Pour parler de ça, mais pas que, on a interviewé Alexandre Cormon, qui est Love Coach.
Alors, le premier confinement, il a été très difficile pour les couples, pour deux raisons principales. Le premier, c'est que c'était très inattendu. C'est une situation qu'on ne connaissait pas, un imprévu. Donc c'est quelque chose quand on ne connaît pas, donc il faut s'adapter. Et les couples ont eu du mal à s'adapter à ce moment parce qu'on ne s'en rend pas compte. Donc là, c'est la deuxième raison. En général, on est toujours très entouré socialement, on va au travail, on a plein d'activités personnelles. Le confinement signifiait être ensemble 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec les enfants. Donc c'est une situation et on n'est pas en vacances. On n'est pas à l'autre bout du monde sur une plage avec le sable. Là, on est à la maison, dans nos habitudes, ça devient très vite ennuyant, donc il faut casser la routine. Et c'est pour ça que le couple a été si... beaucoup de couples, en fait, finalement, en ont pâti à cause du confinement, parce qu'ils ont eu du mal à se réinventer, et parce qu'ils se sont retrouvés 24 heures sur 24 l'un sur l'autre, et qu'ils ne sont pas du tout habitués à ça. Le deuxième confinement, il est aussi difficile, parce que c'est un coup sur le moral. On pensait en être fini avec le Covid, malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, il y a plusieurs points qui sont essentiels. Le premier point, effectivement, c'est de se créer de nouvelles habitudes. Donc, un de mes conseils, par exemple, c'est de dire à des personnes, aux personnes que j'accompagne, que je coach, de pouvoir se réveiller chaque matin plus tôt que d'habitude et d'avoir une petite routine pour soi. Yoga, méditation, un peu de sport à la maison. De trouver un moment pour soi, prendre soin de soi. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut essayer de créer des moments de couple, donc partager du temps à deux. Et donc il faut avoir cet espace personnel et cet espace de couple. C'est comme ça qu'on arrive à pouvoir surmonter ce confinement. Si on est en télétravail, si on est à la maison, s'il y a les enfants, si ça devient compliqué, il faut absolument nourrir ces deux mondes, son monde personnel, son monde de couple.
Donc on l'a compris, que ce soit en période de confinement ou même dans la vie de tous les jours, il est très important d'avoir du temps pour soi dans un couple pour ne pas craquer. Mais pourquoi est-ce d'autant plus important de se l'accorder le matin, ce temps ?
Pourquoi ? Parce que le matin, c'est là où on se met en énergie. C'est un peu le moment qui va déterminer notre morale toute la journée. Donc si on prend du temps pour soi, qu'on médite, qu'on lit un bouquin, qu'on fait du sport, à ce moment-là, déjà, on est dans une nouvelle énergie. Après, il faut faire exactement comme si on allait au travail. Donc on va prendre une bonne douche, on va prendre soin de soi, on va s'habiller, on va surtout pas se laisser aller. Et l'exercice le plus compliqué, c'est d'essayer d'être le plus distant possible en étant dans le même endroit tous les deux. C'est-à-dire d'avoir vraiment un moment où on est centré sur soi et après on se retrouve juste pour, par exemple, manger le midi ensemble ou avoir un moment le soir ensemble. Mais il faut réussir à garder son indépendance pendant cette phase de confinement. Après, ce qui est important aussi, ce que je demande à tous les couples, c'est de faire une liste de 10 activités à faire à la maison. Par exemple, ils peuvent apprendre à cuisiner ensemble, ils peuvent faire un karaoké ensemble, ils peuvent faire un massage un peu plus dans une activité un peu plus sexo. Donc l'idée, c'est d'avoir 10 activités en tête pour ne jamais être à court d'idées et alimenter finalement cette notion de on a besoin d'excitation, on a besoin de nouveautés, on a besoin de tester de nouvelles choses. Ce qui cartonne dans les couples en ce moment, c'est cuisiner ensemble et karaoké. Ça, c'est deux activités qui permettent donc de laisser parler son imagination et de profiter.
Alors la cuisine, bon bah oui, ça me paraît assez évident, mais alors le karaoké, ça c'est plus surprenant.
Le karaoké, et j'ai même eu une personne en coaching qui m'a dit « Alex, on s'est acheté une Nintendo Wii et on fait plein de jeux ensemble ». Donc ça peut aussi être finalement un bon moment pour se reconnecter, passer du temps en soi. Donc au niveau des activités, il faut vraiment laisser parler son imagination.
Et si jamais on revit un confinement, parce que ça a aussi été compliqué pour les célibataires, difficile de rencontrer quelqu'un dans un bar ou dans la rue avec les masques, est-ce que si jamais on revit ça, cette situation, est-ce que c'est la bonne période de se lancer sur une application de rencontre, par exemple ?
On peut, parce que la bonne nouvelle, c'est que le processus de séduction, il va durer plus longtemps. Aujourd'hui, avec les applications, on se rend compte qu'il y a beaucoup de rencontres qui vont arriver très rapidement. On se rend compte, on est ensemble, et puis après on apprend à se découvrir, mais on n'est peut-être pas compatible. Là, avec le confinement, il y a plus de discussions, on cherche plus à apprendre à connaître l'autre. Donc ce sont vraiment des outils, ou plutôt des situations qui nous permettent de trouver l'amour. La contrainte, c'est, et c'est ce que je vois quand même souvent en coaching, des personnes qui me disent « Alex, c'est bon, je suis amoureux », avant même qu'on se soit rencontré, ça crée des émotions fortes, mais derrière, c'est difficile à tenir sur la durée. Donc faites attention à ne pas vous investir dans un couple avant même de vous être rencontrés. Prenez votre temps, c'est très important.
Et on le disait en préambule, les périodes de confinement ont donc été difficiles pour les couples, mais aussi pour les célibataires à la recherche de l'amour. Mais Alexandre Cormont y a vu aussi une période d'opportunité.
Il y a du négatif, mais il y a aussi beaucoup de positif. Dans le couple, ça veut dire passer du temps ensemble, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Se redécouvrir, recharger les batteries, redéfinir des projets. Donc ne pas hésiter à parler de l'après-confinement. Et puis pour les célibataires, c'est d'essayer d'avoir plusieurs personnes avec qui on discute et de prendre le temps d'apprendre à se connaître, de pas juste se lancer parce qu'on a une émotion amoureuse, un espèce de petit papillon dans le ventre. Il faut prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre et justement le confinement le permet. Donc il y a du négatif, mais il y a aussi du positif, il faut garder espoir.
Je suis heureuse de vous faire découvrir toutes ces interviews, ces reportages, en version longue sur Voltage. Et c'est loin d'être fini. Écoutez.
C'est une marque au nom bien original dont on va vous parler, les Poulettes Fitness, une marque donc de vêtements de sport pour femmes qui prône l'acceptation de soi et surtout qui a la particularité d'utiliser un tissu bien spécial pour la confection de ses tenues, du nylon issu du recyclage de bouteilles jetées à la mer ou de filets de pêche. On a interviewé Roxane Sutet, la cofondatrice des Poulettes Fitness.
Alors, les Poulettes Fitness, c'est une marque de running, de vêtements de running, de fitness créée il y a 4 ans. C'est une marque qui est exclusivement féminine. On fait des vêtements techniques de type brassière, legging, short, dans des matières respirantes, confortables, un peu seconde peau. On crée des vêtements qui cassent un peu les codes du textile sportswear avec pas mal de motifs atypiques, féminins, qu'on réalise à la main et avec des messages un petit peu décalés, plutôt fun, girl power. Et on crée vraiment des vêtements pour toutes les femmes. On souhaite contribuer à leur redonner un peu confiance, peu importe leur morphologie, leur niveau sportif. Et on privilégie une fabrication locale, c'est-à-dire principalement française et partiellement dans le reste de l'Europe, pour s'inscrire vraiment dans une démarche durable. On propose également des vêtements qui sont fabriqués à partir de matières recyclées, notamment à partir d'éconyl, qui est une fibre de nylon produite à partir de déchets marins plastiques revalorisés et recyclés. Et on est une marque en plein développement depuis maintenant 4 ans. On développe pas mal notre notoriété grâce à une communauté d'ambassadrices qui sont en fait nos clientes, qui communiquent notre ADN, les valeurs de la marque autour d'elles, qui réalisent aussi nos shootings. En fait, tous nos shootings sont réalisés avec nos propres clientes et pas forcément des mannequins pro pour pouvoir montrer un peu les femmes la femme moderne, la femme de tous les jours dans nos campagnes. Et on vend nos vêtements sur notre site et via un réseau de revendeurs en France et un petit peu à l'étranger. Et là, on va être présent dans le réseau des Galeries Lafayette à partir de janvier.
Ah, trop bien, félicitations. Du coup, justement, je voudrais m'appuyer un peu plus sur les vêtements avec des textiles recyclés. Comment ça fonctionne? Alors, expliquez-moi un petit peu le processus.
Alors, en fait, nous, on travaille avec une société italienne qui, elle, travaille avec tout un système de collecte, de pêche, en fait, de récolte, enfin de collecte de déchets plastiques dans les océans. Donc, c'est principalement des filets de pêche, des bouteilles plastiques ou tous les autres détritus en fait qui se retrouvent dans les océans, donc qui sont collectés puis broyés, donc ça fait vraiment des paillettes de plastique, puis fondues et revalorisées en une fibre de nylon qui permet de réaliser en fait nos tissus et après nos tenues de sport. C'est des matières qui restent très techniques. Ça a plusieurs propriétés comme anti-UV, respirant, asséchage rapide. Ça reste très confortable et ça a vraiment un toucher un peu peau de pêche, donc qui est assez assez spécifique et assez difficile à avoir avec des matériaux recyclés qui peuvent avoir justement ce côté un petit peu rêche. Nous, on a vraiment sourcé un tissu qui garde toutes les propriétés technique et tout le confort qu'on avait déjà avec nos vêtements, mais en plus avec vraiment une démarche très durable et co-responsable.
D'accord, ok, top. Et au niveau tarif, ça va ou du coup forcément ça va un peu plus cher?
on reste, alors nous en plus on est sur une fabrication qui est 100% française sur toute cette gamme là, donc c'est des tarifs qui sont plutôt haut de gamme, mais avec des vêtements de très bonne qualité qui durent longtemps, donc au final on reste sur des tarifs quand même assez abordables pour des produits voilà de qualité. On est entre 79 et 89 pour un legging, une cinquantaine d'euros à peu près pour une brassière, et entre 40 et 55 euros pour tout ce qui est débardeur, t-shirt.
Et c'est tout ce qu'il me faut. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
Pas spécialement. Après, voilà, le fait vraiment qu'on a une communauté qui est grandissante et qui est composée vraiment de nos clientes et de vraies femmes entre guillemets, pour permettre vraiment à toutes les femmes de s'identifier. C'est une marque qui est vraiment créée par des femmes pour des femmes, et on veut permettre à toutes les femmes de s'identifier dans les poulettes.
Si vous voulez jeter un œil sur leur collection, leur site internet, c'est lespoulettesfitness.fr.
C'est la fin pour moi. Je vous retrouve la nuit prochaine sur Voltage. Passez une bonne fin de nuit. Au revoir.
Attends que je fasse le pas. On a joué tellement de fois. On y gagne quoi? Aucun ne se lance comme si la peur avait oublié d'avance. Que sinon, ignore. T'arrives pas too late for these temptations. Too late for me to find a reason to stop you. Gazing into my eyes, watching you. It's too late for me to read now. It's too late for me to cool you down. Un coup tu m'adores, un coup on s'accorde à faire les sourds. On se ment tour à tour. À quoi on joue? Je veux plus faire d'efforts. L'amour au mieux, au pire les remords. Casino ignore. That is not too late for these temptations. Trop tard pour nous trouver des raisons d'apaiser le feu dans nos yeux. Quand on joue ce jeu, c'est trop tard pour nous de renier. Trop tard pour moi de renoncer. Ces tentations, c'est trop tard pour nous trouver des raisons d'apaiser le feu dans nos yeux. Quand on joue ce jeu, c'est trop tard pour nous de renier. Trop tard pour moi de renoncer.